9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver chaque semaine. Bonjour, Selma Guettaf.
Bonjour Samia.
Merci d'être là ce dimanche matin, vous nous parlez de votre livre qui vient de paraître, Les Hommes et Toi, c'est son titre. Il vient de paraître aux éditions Most Éditions. On va rappeler que c'est un livre qui avait paru aux éditions Apic en Algérie. Donc c'est bien de le retrouver de ce côté de la Méditerranée aussi et dans l'espace francophone, puisque c'est aussi un livre dont l'édition a cette dimension de la littérature francophone. Et c'est très bien pour la littérature qu'elle circule comme ça. C'est un livre aussi qui a été sélectionné dans le prix Sangor. C'est dire l'importance et la qualité du livre. Et c'est de cette histoire que nous parlerons, Les Hommes et Toi. Parlez de vous d'abord, Selma Guettaf. Vous présentez, vous avez suivi des études de lettres en Algérie et en France. Vous vivez maintenant en France et vous consacrez la suite de vos recherches en sociologie du cinéma. Vous travaillez dans le journalisme, vous êtes dans le documentaire et le théâtre, donc une dimension très écrite, on va le dire comme ça, très littéraire de manière générale. Et en parallèle, vous suivez donc vraiment des travaux de recherche sur la création littéraire. Vous avez publié quelques ouvrages déjà et celui-ci vient de paraître, Les Hommes et Toi, et on va parler de ce livre-là. D'autres choses à rajouter, vous présentant, que vous souhaiteriez dont on parle?
Non, c'est bien mon parcours, Samia.
C'est bien votre parcours. Les Hommes et Toi, c'est le titre de votre livre et on va parler tout de suite de vos personnages. Il s'agit, et on va pas tout dévoiler évidemment, parce que c'est le propre d'une rencontre littéraire, c'est bien de donner envie aux auditeurs, auditrices de vous lire, de vous connaître au travers ce roman, ce récit peut-être, on y reviendra justement sur cette notion d'écriture qui distingue la narration dans le roman, le romanesque, et dans le récit, qui est une histoire personnelle. Cette histoire, dans ce roman Les Hommes et Toi, est l'histoire de Nihad et Ryan. Ils sont sœurs et frères. Ils sont à la fois proches et distants d'une certaine manière, et ils sont surtout dans ce roman très touchés, comme chacune peut l'être évidemment par le deuil, puisque leur maman va décéder, et l'histoire va se construire dans le livre avec les deux personnages qui sont l'un et l'autre, la sœur et le frère, dans une histoire parallèle mais très liée, très complémentaire, puisque leur vie complémentaire est à la fois proche, puisqu'ils sont cette vie de frères et sœurs, mais aussi par un sentiment qui les construit, c'est ce sentiment d'amour. Ils s'aiment l'un et l'autre, comme on peut s'aimer entre frères et sœurs, voire plus que cela, puisqu'ils sont vraiment très très liés. Et pourtant, ils vont se séparer, quelquefois avec violence, quelquefois se retrouvent avec sérénité. Mais le deuil de leur mère est la constante dans leur livre. Racontez-nous un peu, justement, puisque votre spécialité, singularité, au-delà de l'écriture romanesque et cette recherche littéraire que vous faites, comment est née la construction parallèle de ces deux personnages?
D'accord.
Selma Guettaf.
Alors oui, comme vous l'avez dit, le point de départ dans ce roman, c'est le deuil, le décès de la mère. J'ai voulu en fait quelque part peut-être questionner cette expression, on dit bien faire son deuil, qui ne me convenait pas. Donc je partais d'une expérience personnelle, je venais d'arriver à Paris et je réfléchissais par rapport à cela et il me semblait qu'on subissait le deuil. En tout cas, on ne pouvait faire quoi que ce soit. Et cette expérience nous transforme, elle fait de nous des êtres sans énergie et puis parfois aussi des êtres qui vont vers une forme d'autodestruction. En tout cas, moi j'ai choisi des personnages en effet qui ont comme un parcours de déchéance au moment où ils se séparent. Donc il y a leur lien qui est très fort, qui les unit. Ce sont deux êtres particuliers puisque ils vivent au sein de la société algérienne mais n'arrivent pas à se retrouver, donc ils prennent l'appartement familial comme refuge, et une fois qu'ils sont comme exposés à l'extérieur, il y a donc une espèce de déstabilisation, et là commence tout un parcours qui est en effet qu'on peut qualifier de violent.
Que quand vous dites que le terme faire son deuil ne vous convient pas, et expliquez-vous sur cette intitulé justement qui nous renvoie à chaque fois qu'on a une disparition d'un de nos proches, de quelqu'un dans son entourage, qu'il soit proche ou en tout cas de son entourage. il va bien falloir faire le deuil, mais on ne le fait pas. On sait bien, chacun le sait bien qu'on ne le fait pas. C'est ce qui va arriver au personnage aussi.
Oui, oui. Je crois que quand on écrit, on s'interroge par rapport aux mots, leur choix, leur emploi. Et moi, j'étais en effet intriguée donc par cette expression. Tout le monde va l'utiliser, va dire cela et répéter. Et je ne comprenais pas quel travail on pouvait faire. Peut-être bien des années plus tard, en effet. Mais ce moment où l'on subit un deuil, c'est très particulier. Particulier, oui. Et je trouvais que narrativement, je pouvais exploiter des choses. Moi, j'aime beaucoup, en fait, aller vers l'émotion des personnages, interroger leur intériorité. Et donc, le récit, c'est un peu comme une espèce de huis clos. Deux personnages, donc sœurs et frères, confrontés l'un à l'autre. Et il y a cette intériorité-là, ce lien aussi que j'explore.
Alors, il y a ce lien intérieur de chacun du sœur et de la foire, et puis il y a leur vie tout court, puisque la dimension aussi singulière du livre, c'est bien de donner deux parties, on va le dire comme ça. La première partie est l'histoire de Nihad, et la deuxième est l'histoire de Ryan. Et toute l'histoire de Nihad, elle est à l'extérieur d'ailleurs, puisque elle a une vie professionnelle, elle a des amis, elle a des violences dans les relations avec les hommes, elle a des moments sans doute heureux aussi, on dévoilera pas tout, mais en tout cas, elle a sa vie, et il y a le deuil aussi, qui est là, qui est présent. Mais elle a sa vie quand même, parce qu'on vit malgré tout.
Oui, il y a comme un effet miroir, en effet, comme vous l'avez souligné dans ce livre. J'ai voulu qu'il y ait deux parties, la partie Nihad, la partie Ryan. Il y a un jeu que j'ai fait, J-E-U, donc j'ai voulu que ce soit comme deux parcours parallèles, où il y a comme un effet de résonance. Donc ce sont pratiquement les mêmes événements, mais qui changent en fonction du personnage. Là, donc c'est vraiment un peu la fiction, le côté romanesque, en effet. Nihad va donc tenter une expérience parisienne, on va dire. Elle va essayer donc de s'éloigner véritablement pour vivre son deuil. Donc elle arrive en France, mais ça va être donc quelque chose de l'ordre de de la destruction, en tout cas quelque chose de très violent qui va la pousser à revenir, à chercher donc aussi un petit peu son frère.
Mais avant de partir en Algérie, de quitter l'Algérie, elle a d'abord vécu le deuil en Algérie. C'est-à-dire qu'elle a aussi travaillé en Algérie, elle a eu des relations en Algérie. Elle a continué après le deuil de vivre en Algérie quand même.
Alors en fait, ce qui se passe dans le roman, c'est que donc c'est après le retour, donc il y a cette expérience parisienne, puis elle revient en Algérie.
Et elle revient en Algérie,
et là,
oui.
En effet, je raconte un petit peu comment elle va essayer d'avoir une vie normale, un petit parcours. Donc là, je raconte un peu la presse algérienne. Je m'amuse. Il y a des anecdotes, etc. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que Nihad va le vivre. Ce ne seront pas des expériences positives pour elle, même si il va y avoir, donc je vais explorer la question des relations amoureuses aussi, mais tout cela reste, comment dire, il y a quand même ce patriarcat, cette ambiance masculine dominante. C'est ça aussi que je voulais raconter à travers ce roman.
Les interdits des femmes de vivre librement, d'être stigmatisées, on voit aussi...
Oui, cette question de la liberté, en fait, donc qui est propre à chacun, mais quand il s'agit en effet d'un personnage féminin, donc d'être une femme, c'est différent encore. On peut aller plus loin. Donc cette question de la singularité et comment je peux exprimer ma singularité dans un espace, en effet, où le collectif est quand même dominant et où le regard masculin aussi va priver de cette liberté-là. Ce sont deux choses.
On va aussi rencontrer Ryan dans cette partie, parce que il y a deux parties, il y a la vie de l'un et la vie de l'autre, mais dans la vie de Nihad, il y a quand même Ryan qui y apparaît. On voit apparaître Ryan. Dans la vie de Ryan, il y a aussi on peut avoir l'imaginaire de retrouver Nihad aussi. Là aussi, c'est une construction aussi intéressante. On va poursuivre notre rencontre avec Nihad et Ryan, et surtout avec Selma Guettaf, l'auteur de Les Hommes et Toi, dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Pour poursuivons notre rendez-vous, notre voix au chapitre ce dimanche matin. Je rappelle que je reçois Selma Guettaf et nous parlons de Les Hommes et Toi. C'est le titre de son ouvrage qui vient de paraître aux éditions Most Éditions. C'est l'histoire de Niyad et de Ryan. On en a parlé en début d'émission. Ils sont sœurs et frères. Leur vie a basculé dans le deuil puisque leur mère les a quittés. Leur mère était dépressive. Leur mère était... Il y a aussi l'importance dans le livre, c'est aussi la parole du père et de la mère quand même, pour l'un et l'autre, comment ils ont traversé la vie familiale.
Il y a la question de la famille qui est
la question de la famille, oui, bien
dans
sûr.
Ce livre, parce que donc là encore, donc mon récit se passe en Algérie et en effet donc la question de la famille me semblait donc très présente, très importante encore aujourd'hui. Donc il y a deux choses en fait qui m'interpellaient en écrivant ce roman. À la fois cette notion de la communauté, donc
du groupe.
Oui, on le voit dans la vie de tous les jours. Donc c'est quelque chose en effet qui peut porter donc quelque chose qui peut avoir une quelque chose de qui peut être positif, mais en même temps quelque chose qui peut être de l'ordre de l'étouffement, donc de l'empêchement où on ne sait plus trop qui on est intérieurement. Et aussi donc il y avait forcément la famille. Je pense que comment dire, on est dans une société où la famille, donc, par exemple, il peut pas y avoir véritablement de communication. Donc cette question de la génération, il y a véritablement comme un écart. En tout cas, le non-dit est là et sépare souvent donc enfants et parents. Là, je ne prends pas de cas particulier, mais plutôt des généralités.
Alors, cette histoire de Niyad et Ryan qui traverse le livre, qui est le livre fondamentalement, c'est l'histoire d'une sœur et d'un frère, je le répète, c'est l'histoire de leur vie singulière, de leur vie violente parfois, quand même, on peut le dire, la violence dans ce qu'ils vont traverser, et comment, quand ils vont se retrouver, ils vont essayer de dépasser cette violence. Et là, c'est difficile pour l'un et pour l'autre.
Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a donc cette violence dans le roman. Peut-être d'abord parce que en écrivant ce livre, je suis allée beaucoup fouiller dans des faits divers, etc. Donc,
j'allais presque demander dans une vie personnelle, si je puis me permettre.
Il y a aussi ce fond-là. Et donc, je ne dis pas que lorsqu'on sort de l'espace familial, ça va être le chaotique, etc. Pas du tout. Mais là, j'ai voulu prendre des personnages qui se sont construits comme d'autres adolescents, d'autres jeunes, sous un peu le joug familial. Ils n'ont pas appris à être autonomes, à être indépendants. Donc je me suis dit, quand on grandit comme ça, avec cette idée que on ne peut pas vivre seul, on ne peut pas, il faut attendre d'être marié pour quitter l'espace familial ou quelque chose comme ceci, qu'est-ce qui va se passer? Donc généralement, être exposé tout d'un coup à la liberté, ça peut être brutal. Et c'est cela que développe le récit.
Et dans ce récit, quel échappatoire ils vont retrouver alors du coup, peut-être pour nous donner l'espoir, parce que si je dis violence, on peut penser que du coup le roman peut être difficile, lourd de cette violence. Mais d'abord, c'est une superbe écriture, il faut le souligner. Et c'est surtout qu'il va y avoir un échappatoire. Et voilà, comment peut-on s'en sortir de manière générale et de manière singulière et audacieuse pour nos deux héros, nos deux personnages dans le livre?
Alors, je ne voudrais pas révéler non plus oui. Donc
le tout, mais oui. L'idée, enfin, en substance, voilà, comment...
Oui. C'est cela souvent en fait quand je discute de ce livre, on me dit parfois ah on dirait qu'il n'y a pas d'espoir, on dirait que c'est très sombre. Alors il faudrait sans doute pas confondre le point de vue de l'écrivaine et le récit. Ce roman-là, je l'ai écrit à un moment donné, j'ai choisi mon histoire, je l'ai développée. Elle est très sombre. Quelque part, je laisse au contraire planer cette espèce de.
Ils vont s'en sortir.
Ben non, enfin,
oui. Non, mais on pourrait l'imaginer.
Un petit peu, en tout cas par rapport à Niyad, c'est vrai que c'est un peu ouvert, on peut imaginer cela. Mais sinon, si vous voulez le point de vue de l'écrivaine, c'est vrai que moi je reste très optimiste et je ne dis pas que toutes mes histoires vont être aussi sombres, pas du tout.
Il aura fallu du temps pour l'écrire, ce roman, puisque vous parliez il y a un instant de recherche pour trouver un peu ce qui peut arriver à Ryan et puis à Annie Head.
Alors, il a fallu probablement de la distance. C'est un livre qui me fait tout de suite penser donc à l'Algérie. Et pourtant, je ne l'ai pas écrit en Algérie. Je l'ai écrit en arrivant à Paris. Donc, quelques années après avoir vécu moi-même donc un deuil, cette expérience-là. Donc, c'est ça qui a été nécessaire. Je me suis rendu compte de l'importance de prendre du recul, d'avoir un autre regard. Et là, en effet, je suis partie de... C'était d'abord... quelque chose de l'ordre de l'expérience personnelle, questionner le deuil, mais aussi donc des rapports au sein de la société, cette question de la masculinité, de comment on éduque aussi des enfants, donc la question de la femme, du corps de la femme, qu'est-ce qu'on en fait, et puis ces rapports-là. Moi, je trouvais que dans des romans, on peut souvent questionner les questions, pardon, on peut questionner les relations amoureuses, mais on questionne pas toujours ces relations au sein de la famille, donc ici, sœur et frère. Le garçon apprend généralement à surveiller donc sa sœur, hein. C'est ce qu'on va voir en grandissant. Et moi, j'ai voulu prendre donc des personnages qui sont particuliers. En tout cas, ils sont différents. Et parce qu'ils sont différents, ils se sentent comme obligés de se tenir à l'écart, de ne pas vraiment se fondre dans la masse, on va dire. Et en même temps, donc quand même, ce rapport sur les frères, on voit que ce n'est pas évident du tout.
Et sur le rapport amoureux, il y a quelque chose de très sensible, de très intéressant dans ce que va tenter, vouloir, en tout cas vivre Niad sur ses rapports avec les hommes. C'est d'où le titre, sans doute, « Les hommes et toi ». Et enfin, vous y répondrez, parce qu'elle a, c'est conflictuel souvent, en tout cas elle a des exigences, plutôt que conflictuel, peut-être elle a des exigences sur le rapport avec les hommes.
Oui, encore une fois, ce sentiment de ne pas se retrouver, d'être un peu comme perdu. Alors le titre, Les hommes et toi, oui, comment dire, pour moi, donc je voulais absolument garder ce titre, donc avec la réédition du roman, parce que il résume bien à la fois l'histoire et les deux personnages, Ryan et Nihad, puisque Ryan est aussi quelque part en train de questionner son homosexualité, donc lui aussi s'interroge par rapport aux hommes, mais il le tait, donc ce n'est pas forcément, il y a ce questionnement. Et donc, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la question de la prostitution qui est évoquée dans le livre. Donc, en effet, on n'est pas vraiment dans des relations amoureuses, mais on est dans ce questionnement, son rapport avec l'autre.
Mmh. Et Niad, elle essaie de, elle se questionne, mais à un moment donné, elle va quand même avancer dans une relation amoureuse. Elle sera brève, mais elle va l'essayer.
C'est ça un petit peu. Oui, sans vouloir dévoiler. Donc, oui, en effet, essayez. Oui, oui.
Mmh. Voilà. On va vous retrouver dans un instant pour la dernière partie de notre rencontre, Selma Guettaf. Un mot peut-être avant de se retrouver. Il a été publié donc en Algérie, ce livre, avec ce qu'on vient de dire, à la fois de. Qui bouscule un petit peu hein, le rapport des hommes-femmes dans la vie, dans une société patriarcale, qui est la société du monde arabo-berbère ou musulman, appelons-le comme ça. Donc, comment il a été bien accueilli?
En Algérie, ça a été une surprise, donc une belle surprise. Moi, je faisais des allers-retours. Le livre est sorti. Je n'étais pas en Algérie, mais j'ai pu donc faire quelques voyages. Et à chaque fois, donc, il y a eu des rencontres. La maison d'édition a pu donc organiser quelques événements. Et la première surprise, c'est que beaucoup de jeunes venaient. Et la deuxième, c'est que il y avait ce besoin de prendre la parole. Alors, je ne parlais pas tant que ça du livre. Les autres en parlaient à ma place. Et en fait, c'est très beau quand on se rend compte que dans le public, il y a des gens qui ont
lu. Qui s'y retrouvent.
Donc oui, qui s'y retrouvent aussi, qui ont lu et qui vont, En tout cas, c'est ce que j'ai senti. Le public a le livre a permis de cette prise de parole. Tout d'un coup, il y a
de la libérer.
Une envie, oui, de s'exprimer, de dire quelque chose par rapport à des sujets qui sont considérés comme tabous. Donc, il y avait ce sentiment de sécurité. On est entre nous un peu. C'était un peu ça. On peut parler. Et il y avait une écoute de l'autre, des interrogations intéressantes. Alors, j'étais là, j'étais plus dans l'écoute. C'était très joli, en fait. Voyez.
Selma Guetta fait l'invité de Voix au chapitre ce dimanche matin. Nous parlons de Les Hommes et Toi. C'est le titre de son ouvrage qui vient de paraître aux éditions Most Éditions. On la retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Poursuivons notre rencontre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Selma Guetta et nous parlons de Les Hommes et Toi. C'est le titre de son ouvrage. Il vient de paraître aux éditions Most Éditions. Nous avons rencontré et entendu ces deux personnages, Nyad et Ryan. Je vous propose, si vous le voulez bien, Selma Guetta, de nous lire dans le tout début quelques lignes de ce début d'ouvrage.
D'accord. Denia. Nyad répétait ce mot exactement comme le faisait sa mère quand elle était fatiguée. Denia. Ce terme, dans l'imaginaire de Nyad, renvoyait à une vie très dure. Denia. C'est cette vie qui abîme vos traits et qui vous pousse dans vos derniers retranchements. Denia. À peine 25 ans et déjà une vie pathétique. Voilà ce qu'elle se disait d'elle-même. Nyad était resté un an à Paris, la plupart du temps bourré. À part boire, se promener, fumer et écrire, elle ne savait pas faire grand-chose. Chaque matin, elle se retrouvait à déambuler dans sa robe de la veille. L'odeur d'un kidam sur ses doigts, son goût dans sa bouche. Son maquillage défait, ses cheveux plaqués sur sa figure, sa culotte fourrée dans son sac. Des coups d'un soir, pour un hébergement. Accepter d'être lamentable, d'être rien, c'est peut-être ça vieillir, pensait-elle. Une sorte de gros ras-le-bol, un vide, qui gagnait du terrain dans sa poitrine, qui envahissait ses poumons, comme une envie de mourir, mais pas de façon violente, comme sauter d'une falaise ou disparaître en mer, et rien d'autre. Un corps chutant dans la nuit vers les zones noires, sans jamais se fracasser.
Nyad, en vous entendant, Selma Guetta, c'est une jeune femme qui a la souffrance en elle, mais qui va essayer de s'en sortir. On a sans jamais se fracasser, c'est un peu ça. C'est se dire que on va se relever.
Oui, j'ai voulu quelque part inverser ces rapports donc frère et sœur, puisqu'ici dans ce roman, l'être sensible qui a besoin d'être aidé, c'est plutôt Ryan, donc le frère, et Nyad est dans ce rôle de force, en tout cas dans le paraître. C'est elle quelque part qui agit, c'est elle qui essaie de maintenir cette relation, c'est elle qui essaie de faire en sorte que le deuil ne soit pas une expérience si dévastatrice.
Et dans ce lien avec son frère Ryan, Nyad, elle essaie de le tirer aussi parce que lui, on a le sentiment qu'il a du mal à se relever. C'est elle qui va le porter tout le temps.
Le porter, oui et non, parce que puisque à un moment donné, il y a cette séparation. Leur parcours, ils ne sont plus ensemble et comment dire, ils se disent, enfin on peut penser ça, que ce deuil ne pourra se faire qu'en étant séparés. Donc toujours dans le roman cette question de comment je fais mon deuil, et si au départ on croit qu'en étant ensemble, eh ben on va y arriver.
On sera apaisé, mais non.
Par la suite, c'est cette séparation là.
Les Hommes et Toi, c'est le titre de votre livre. C'est un livre très, très émouvant et des personnages attachants avec tout ce qu'ils, tout ce que vous nous évoquez au travers de cette rencontre ce matin, donc tout ce qu'il traverse de difficile, de violent et d'apaisé, sans doute, mais on dévoilera pas toute l'histoire. Quand on est romancière, on est dans une écriture singulière comme celle-ci. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. Vous vous rappeliez tout à l'heure que c'était aussi votre point fort, si je puis dire. En tout cas, c'est d'aller au plus loin de l'intérieur de vos personnages.
Oui, c'est vraiment ça qui m'anime dans l'écriture. Et je crois que c'est par là qu'a commencé mon écriture à moi, et elle évolue dans ce sens. Dans mes lectures aussi, donc c'est vrai que je vais plus vers des livres où il y a cette psychologie du personnage qui est très présente. Je pense aux romans de Sarah Chiche, par exemple, ou de Catherine Millot et d'autres. Je me souviens aussi, quand j'étais très jeune, je me suis beaucoup construite en lisant Mustapha Ben Fodil. Donc on est souvent dans quelque chose qui nous ramène vers la théâtralité,
puis vers le réalisme aussi, hein.
Oui. Mais en fait, en tout cas, moi, quand j'écris, j'ai envie qu'en lisant, on se dise, ah, mais ça pourrait être une mise en scène, ça pourrait se passer là, parce qu'il n'y a pas tant que ça de lieu. Ce n'est pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup d'événements. En fait, c'est avant tout des personnages qui sont comme
qui narrent, qui racontent.
Oui, qui sont comme acculés et qui ont besoin de dire.
Alors, une écriture en cache une autre. Vous n'allez pas nous dévoiler le prochain roman, mais je suis sûr qu'il y a des écrits dans le tiroir. Il y a encore, il faut un temps pour, quand on a écrit beaucoup, c'est souvent ce que je demande moi aux auteurs invités, c'est que quand un livre se termine, il est plus à vous. Il est au lecteur après le livre, hein. C'est ce que vous dites souvent, les auteurs. Et du coup, il y a encore dans le tiroir beaucoup d'écrits.
Alors, il y a en effet des écrits, parce que l'écriture, elle est quelque part, elle est nécessaire, elle est continuelle. Donc, on ne s'arrête pas, mais on ne sait pas si cet écrit-là va devenir un livre, un roman, ou si en fait on écrit quelque chose qu'on va après garder pour soi. Donc, c'est ça.
Et qui va ressurgir peut-être quelques années plus tard.
Exactement.
Pas au lendemain de l'écriture, mais quelques temps plus tard.
Oui, parce que vous soulignez quelque chose de très important. Ce n'est pas évident de donner à l'autre. C'est quand on publie un livre, il ne nous appartient plus, c'est le lectorat qui le porte. Et cela, on peut penser que c'est simple, mais ce n'est pas du tout anodin pour un auteur. Donc ce moment où l'on arrive à la fabrication d'un livre, c'est quand même une expérience presque angoissante, je dirais.
Parce que ça sort de vous, et c'est de l'intime que vous livrez à de l'inconnu.
Ah oui, pour moi c'est totalement le cas. Je ne suis pas dans un roman, comme on appelle la littérature de genre, un polar ou autre. Et donc c'est un peu ce qu'on appelle l'autofiction, une espèce de jeu, J-E-U, entre le jeu, J-E, et l'invention d'un personnage. Je m'amuse avec ça, mais il y a une part de moi qui est là, j'écris avec ça, oui.
Et vous écrivez aussi autrement, puisque vous êtes aussi dans des interventions, de la recherche littéraire. C'est important aussi de manier à la fois la réflexion littéraire et l'écriture.
Pour moi, oui. J'ai appris à penser les textes de cette façon aujourd'hui. Par exemple, quand j'anime mes ateliers d'écriture, je reviens à ça. En effet, il y a eu des lectures, puisqu'on ne peut pas écrire à partir de rien. Ce sont les lectures qui viennent construire quelque chose. Mais aussi, ça peut être la théorie, ça peut être le parcours universitaire. Et pour moi, ça a été très important.
Et dans la recherche littéraire aujourd'hui, qu'observez-vous sur les différentes narrations qui peuvent exister, notamment dans la littérature francophone, puisque j'imagine que vous lisez des auteurs francophones, qu'ils soient québécois ou qu'ils soient d'Afrique de l'Ouest, qui sont dans une écriture singulière, hein, l'écriture canadienne, d'auteurs québécois, d'auteurs maliens, africains, c'est des écritures particulières aussi. Alors, avec des imaginaires particuliers.
Oui, c'est quelque chose qu'on peut explorer. Pour moi, en fait, dans le champ de la recherche, ça a été plus l'adaptation cinématographique. Donc, je me suis intéressée à des romans qui ont été portés à l'écran par un auteur. Donc, en fait, l'auteur qui se dit à un moment donné, je vais contribuer à cette expérience cinématographique, que ce soit en tant que, co-scénariste ou autre.
Adaptation.
Oui, le cas de. J'étais partie à l'époque du cas de François Bégaudeau, mais il y a plusieurs, en fait, en effet, il y a plusieurs.
Entre les murs, c'était entre
oui,
les murs.
Exactement, puisque on peut se poser des questions. Est-ce que cette expérience-là cinématographique va hisser le livre, lui apporter une autre valeur? Qu'est-ce que ça va en fait apporter au texte? Et c'est plus ça que j'ai tenté de creuser.
Parce que souvent, c'est un cinéaste qui s'empare d'un livre et qui va le réaliser au cinéma.
Ouais.
Et souvent, on pense, il me semble que c'est pas la même chose des livres adaptés au cinéma. C'est pas le cinéma qui va être réécrit, c'est l'écriture qui va être portée au cinéma. Il y a de nombreux livres qui ont été adaptés au cinéma dont on peut Les Illusions Perdues, là, un grand film qui a été vous l'avez vu voilà. La littérature française au cinéma sur grand écran d'un autre siècle. L'adaptation, elle est audacieuse. Elle n'est même pas la même fin du livre, mais on peut imaginer la lecture et on peut retrouver la lecture de ce texte de L'Illusion perdue.
Oui, et dans les cas où l'auteur, en fait, lui-même va porter son texte, il y a une expérience autre de l'écriture. Par exemple, là, je peux recommander une série, Anna, donc écrite par un auteur qui, en fait, au départ, avait publié un livre et là, il en fait une série. Très belle esthétiquement, le nom de l'auteur me revient pas, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en fait? Quelle est cette autre écriture?
Alors on peut imaginer Les Hommes et Toi au cinéma, en adaptation. Une autre vie de ce livre. Merci Selma Guettave d'être venue nous présenter Les Hommes et Toi, merci infiniment.
Merci.
Ce livre vient de paraître aux éditions Most Éditions. Et on va rappeler quand même que c'est un livre qui avait été sélectionné dans un prix qui est le prix Sangor, qui est un grand prix de littérature. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au Chapitre. D'ici là, passez une bonne semaine et portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
Retrouvez Voix au Chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.